Silence.
Te chercher, je savais que tu m'attendais.
Et oui, on revient vous chercher pour retrouver la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour Damien. Bonjour chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. Oui, les cinémas sont ouverts, on ira tous au cinéma. Vous avez entendu la musique et c'est ça, oui. Je reviens te chercher. On revient chercher les spectateurs. Non mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller au cinéma. Ils prennent toutes les précautions, je vous assure. Il n'y a aucun problème là-dessus, sinon je ne vous en parlerai même pas. Mais moi j'ai vérifié et ils prennent vraiment, vraiment, absolument toutes les précautions possibles. Tout à fait. À ce propos, d'ailleurs, la semaine dernière, c'est ça, hein, Damien, la semaine dernière, on a parlé de Petit Vampire.
Oui.
Il a énormément...
Le dernier film de Joan Svaar.
Tout à fait. Et il a énormément de succès et toutes les critiques sont vraiment unanimes. Oh, mes chéris, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est à partir de 6 ans, allez-y, allez-y, parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Et que comme j'ai entendu, depuis que je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai entendu un tas d'échos et c'est que des bons échos. Vraiment, Petit Vampire.
Et pour les auditeurs de l'Entre-deux-Mers, vous pourrez aller le voir samedi 31 à l'occasion d'un ciné-goûté spécial Halloween au Cinéma Rex de la Réole. Ça sera à 15h.
Notre partenaire, le Cinéma Rex. Eh oui, ah oui, oui, les ciné-goûtés, oui, c'est fabuleux ça. Ah oui, oui, Petit Vampire. Hein, moi, allez-y, allez-y, mes chéris, franchement. Franchement, emmenez les petits, ça leur fera un bien fou. Avec le temps qu'on a en plus, je pense que ce sera pas mal. Et puis, ben, on va démarrer les films qu'on peut voir en ce moment. Moi, j'ose plus trop dire de date, hein, c'est ce que je disais déjà la semaine dernière. Ça change sans arrêt. Mais enfin, bon, ce qu'on peut voir quand même en ce moment, enfin, du moins là, je pense à partir de ce mercredi. Mais bon, avec réserve, parce qu'au dernier moment, quelquefois, il y a des petites surprises. En tout cas, on va commencer. J'ai mis de côté une animation, c'est fantastique. C'est pour la famille. Hein. C'est australien. C'est à partir de 6 ans également. Je vois déjà ma petite copine va y aller, Naya, j'en suis sûre. En tout cas, c'est sûr que c'est pareil. Hein. C'est très chouette. On verra si ça a le même succès que Petit Vampire. Mais je pense que c'est vraiment... Enfin, ça va être apprécié aussi, je pense, par tout le monde. Alors, c'est réalisé par Alex Staderman, qui est un réalisateur, réalisateur australien. Il est très connu chez lui hein, en Australie. Il est très apprécié. Il a déjà eu pas mal de succès. Ça s'appelle, j'ai pas dit le titre, ça s'appelle 100% loup. Ah, pourquoi loup ? Ben, on va le savoir. Freddy Lupin et sa famille cachent un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais à la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous. Le jour de son 14e anniversaire, Freddy s'attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation, rien ne se déroule comme prévu. Et le voilà qui devient un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille. Freddy n'a plus désormais qu'un objectif. Démontrer qu'il est bel et bien 100% loup. Ouh, loup, le loup-garou. Et oui, alors le film est adapté de 100% wolf. Wolf, ça veut dire loup. Hein. de l'écrivaine Jane Lyons. Alors, c'était sorti, enfin, son livre est sorti en 2009. Et en 2009 également, en Australie d'ailleurs, il a été élu meilleur livre pour enfants, recommandé par les parents. Ça, c'est très important. Meilleur livre pour enfants, recommandé par les parents. Alors, les thématiques, c'est quoi? C'est l'amitié, c'est l'humour, c'est le fantastique. Et il va y avoir une suite 100% héros. Il faudrait vraiment, c'est titré d'ailleurs, il faudrait un miracle cette année. Voilà, c'est donc on a les voix, des voix qui ont l'habitude. Hein. Ben, il y a le réalisateur qui fait une voix, Alex Staderman. Il y a également Akmal Saleh qui fait une voix aussi. Ça dure 1h35. Et je suis persuadée que Damien nous a mis quelque chose de côté.
J'ai mis la bande-annonce de côté que l'on écoute.
Merci. En loup-garou, bien sûr.
Ok, papa. Ce soir, c'est le grand soir. Je suis prêt à devenir 100% loup. Tout comme toi.
Freddy Lupin, avance dans la lumière.
Loser.
Que le protocole de métamorphose commence.
Je le fais pour toi, papa. Dites bonjour au grand méchant loup.
Un caniche? Tu as jusqu'au clair de lune de demain pour prouver à la meute que tu es un vrai loup. En cas d'échec, tu seras banni.
T'es qui, toi, mon caniche?
Je suis pas un caniche.
Vraiment? Un labraniche, un yorkniche, hey, un bobtiche.
Hé, oh, hey, arrête de me renifler les fesses, folle dingue.
Wow.
You can be cool. You can be shy.
Oh, laisse-la tranquille.
Ah, deux pour le prix d'un.
Emmenez-le au salon de beauté. Ça leur fait tous pareil.
Pas les griffes les plus longues ou les dents les plus pointues. Ils ont le plus grand des cœurs.
C'est absolument normal. Ouais, je suis un garçon, moi, comme vous pouvez le voir.
Waouh, par la sainte mère des bâtards.
100% loup.
Oui, les aventures de Freddy Lupin. Eh oui, mais moi j'avais noté dans la marche que c'était tout chou. J'aime beaucoup ce dessin là, je sais pas, j'aime bien les couleurs, la musique, tout. Mais en tout cas, ça réveille, hein. C'est sûr. Mais les personnages sont très sympathiques. 100% loup, yes. Alors ensuite, on va passer à une comédie française. Je crois que j'ai beaucoup de films français en fait cette fois. Très peu de films étrangers, c'est rare ça. Beaucoup de films français. Ça s'appelle Garçon chiffon. C'est une comédie de Nicolas Maury, qui est un réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 40 ans. Et si on a l'habitude de suivre des séries à la télévision, il est dans 10%. On le voit dans 10%. Il joue le rôle d'un agent, artistique. Ouais, à mon sens, c'est un excellent comédien. Enfin, j'ai regardé un peu 10%. Et je l'ai trouvé assez fabuleux. Dans son rôle, qui n'est pas facile d'ailleurs, le rôle qu'il a, lui. Et donc, Garçon chiffon fait partie de la sélection officielle à Cannes 2020 et il a eu une nomination, label du premier film. Il y avait label des fidèles, il y a label aussi des premiers films. Et il a une nomination aussi, parce que ça, je l'ai trouvé, c'était pas trop noté, mais j'ai cherché, j'ai trouvé qu'il avait une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême en 2020, catégorie compétition. Garçon chiffon, ben c'est quoi ça? C'est l'histoire de Jérémy, la trentaine, qui peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère. Alors Nicolas Maury, donc le réalisateur, c'est Jérémy. Et oui. Et alors la maman, c'est une grande comédienne qu'on aime beaucoup, Nathalie Baye, qui est formidable comme d'habitude d'ailleurs. dans ce rôle. On a alors le on a Arnaud Valois, on a Théo Christine, on a Laure Calamy. Alors Laure Calamy, c'est pareil, elle est dans 10%, dans la série 10%.
Elle est la collègue de ce Nicolas Maury.
Tout à fait, de Nicolas Maury, tout à fait. Et on a Dominique Raymond aussi, qui est une grande comédienne, Laetitia Spigarelli, on a Jean-Marc Barre, bon sang, on est content de retrouver Jean-Marc Barre, quand même grand, grand comédien également. Et oui, moi, c'est un joli casting, hein. Ah, pour moi, c'est vraiment très, très chouette. C'est un très joli film, hein. Ça dure 1h50. Franchement, ça fait du bien aussi là, en ce moment, ce genre de comédie. Ça fait beaucoup de bien. Oh, puis revoir Nathalie Baye quand même. Mince, et Jean-Marc Barre. Oh là là, ça vaut la peine.
Et on écoute la bande-annonce.
Merci Damien, j'allais juste te demander.
Ça raconte quoi? Tu me fais le speech?
Le pitch.
C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider.
C'est pour toi.
Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramsey, voilà.
Ah, pourquoi on veut pas de moi?
Pour ces cons-là, tu es trop.
Trop?
Albert, t'es rejoint chez sa mère?
Bah non, on est en froid.
T'as regardé dans mon téléphone?
J'aurais une raison de le faire.
Monsieur, le cabinet est fermé.
C'est qui?
Qu'est-ce que tu fais là?
Je suis son mari, monsieur.
On n'est pas mariés, tu sors d'ici.
Tu sors!
Soigne ta jalousie.
Qu'est-ce qui va pas avec moi?
Si t'avais été acteur dans les années 60, t'aurais pas arrêté d'enchaîner les films.
Télétransporte-moi.
Ça va, mon chiffon?
Ça va, j'arrive demain.
Je descends pour y voir plus clair.
Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chose? T'as l'air tout chose.
Pourquoi tu me parles jamais de tes amours?
Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi.
Ça va aller, mon chiffon.
Ah, ne retiens pas tes ailes, marche.
T'aimes bien quoi, cher mec?
C'est une vraie question.
Jérémy, qu'est-ce que tu fais?
J'apprends mon texte pour l'audition.
Ne cherche pas à comprendre.
Merci pour tous mes mères.
Vos sœurs.
Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé.
Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie?
Mais tu fais de la.
Ton père et moi, on n'a pas eu de chance.
Tu pourras.
Mais je t'ai eu. Mais ça, c'est énorme. Alors là, je suis heureux.
Avec toi.
Voilà, Garçon chiffon, ouais. Donc film de Nicolas Maury.
Oui, c'est plein d'humour et de tendresse aussi. Son compagnon, j'ai donné son nom, c'est Arnaud Valois qui joue le rôle du compagnon d'ailleurs. Très très bon comédien également. Ouais, très joli. La musique aussi est belle. À voir, mes chéris, à voir. Ça peut faire du bien de toute façon. Oh oui. Alors, on a besoin de tendresse en ce moment. Tiens, au fait, toi, puisque tu connais 10%, Damien, tu sais que Laure Calamy justement part à un moment donné avec Thibaut de Montalembert, qui lui aussi est un agent, 10%. Mmh. Ils vont monter leur agence à eux, à un moment donné, parce qu'elle est folle amoureuse de lui, en fait. Voilà. Laure Calamy. Ah oui, 10%, très, très jolie série quand même, là, franchement. Hein. Ouais.
Oui, qui nous montre l'envers du décor des acteurs et toute l'industrie cinématographique.
Eh oui, 10%, c'est ce que touchent les agents, hein, les agents artistiques. Mmh. Ah oui, c'est... Mais je crois qu'elle est très plébiscitée, voilà, la série, hein, je crois que ça marche très bien. Moi, je ne suis pas trop série, mais j'avoue que celle-là m'a beaucoup plu. Alors, ensuite, comédie dramatique que j'aime, oui, une française, Sous les étoiles de Paris. C'est un joli titre, ça, je trouve. Sous les étoiles de Paris. C'est de Klaus Drexel, qui est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie. C'est un Allemand, il a 52 ans. C'est un petit coup de cœur aussi, quand même. Hein. Oh, tous, là, les petits coups de cœur. Là. J'en ai eu des petits coups de cœur. Alors, il a déjà eu un prix et 4 nominations. Et, pour un petit peu le replacer, cet homme-là, par exemple, on l'a vu dans Affaires de famille, alors qui est un film, alors mais hilarant. Mais alors, en 2008, moi, quand je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de le voir à la télévision. Je crois qu'il est passé, il passe régulièrement. J'avoue que j'étais pliée en deux de rire, mes enfants. Écoutez, si vous le trouvez ou si vous trouvez le DVD pas trop cher, franchement, Affaires de famille, ça vaut la peine. C'est André Dussolier et Miu Miu dans les rôles principaux, mais franchement, on se marre, quoi, beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup. Bah, c'est une famille qui n'a pas d'histoire et qui découvre un jour un sac de sport rempli de billets de banque. Alors, on imagine tout ce que ça peut entraîner comme situation. Bon, voilà ce que fait Klaus Drexel, entre autres, hein, c'est pour, hein, juste pour le resituer. Alors, Sous les étoiles de Paris, c'est quoi ? Ben, c'est depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont. Elle est isolée de toute sa famille et de ses amis. Par une nuit, comme il n'en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Sully, il s'appelle Sully, ne parle pas français. Il est perdu, séparé de sa mère. Ensemble, ils partent à sa recherche. À travers les rues de Paris, Christine et Sully vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Et Christine retrouve une humanité qu'elle croyait disparue. Alors, ça dure 1h30, c'est avec... Oh là, mince, j'en perds la voix, c'est avec Catherine Fraud. Ah, oh, on l'aime, Catherine Fraud, c'est vraiment une grande actrice quand même. Hein. Et puis, ah, mais oui, il y a une petite participation de sa sœur dans la vie, qui s'appelle Dominique Fraud, et qui est une comédienne également. Elle fait surtout du théâtre, d'ailleurs, Dominique Fraud. Sa sœur fait plus de cinéma, et elle fait plutôt du théâtre. Et puis, on a qui encore ? Eh bien, on a par exemple Farida Rawadi, non, il ne faut pas que j'écorche son nom parce que c'est une excellente comédienne. Quand on la voit, on la connaît. On l'a vue souvent. Elle tourne beaucoup. Elle a eu beaucoup de rôles secondaires. Mais bon, c'est vrai que le nom, on la connaît peut-être pas trop par son nom. Farida, c'est Rawadj. Mais elle est vraiment excellente. Vraiment. Et alors, le petit Sully, c'est Mahamadou Yaffa. Il est tout mimi. Il est mimi comme tout, le petit gamin. On a Jean-Henri Compère, on a Richna Louvet, Raphaël Thierry, Baptiste Amann dans les rôles principaux. Alors c'est pareil, le casting est très très bon. Voilà, je pense que Klaus Drexel l'a bien soigné, ce casting. Alors en fait, la thématique des sans-abri intéresse particulièrement ce réalisateur justement. Avant Sous les étoiles de Paris, il avait mis en scène Au bord du monde. C'est un documentaire centré sur des SDF à Paris. Mais je me souviens plus trop, mais je me demande si on n'a pas parlé ici à l'antenne. Au bord du monde, ça me rappelle quelque chose. J'ai pas eu le temps de trop chercher, il faudrait que je voie ça. Alors il nous dit, j'éprouve un profond attachement pour ces gens qu'on filme trop souvent avec une image peu soignée. Je souhaitais cultiver leur beauté, leur sensibilité et leur poésie. Catherine Fraud, qui avait été très touchée par le documentaire Au bord du monde, m'a contactée à ce moment-là. Assez vite, elle et moi avons discuté de la possibilité d'un projet de film qui leur rendrait cette dimension. Alors en fait, le réalisateur et Catherine Fraud partageaient le même intérêt pour l'héroïne du film Christine. Christine, c'est aussi une des héroïnes du documentaire Au bord du monde. Et la comédienne se souvient Klaus, qui passait alors beaucoup de temps auprès des migrants dans les jungles de Calais, m'a soumis l'idée de Sully. Migrant, lui aussi perdu et isolé. À partir de là, je l'ai laissé avancer dans le scénario. On se retrouvait régulièrement pour réfléchir ensemble, mais ça restait leur scénario. Oui, le scénario est de Klaus Drexel et d'Olivier Brunès. Ils ont préparé le scénario à deux. Alors, c'est le thème cinématographique des sans-abri. Décidément, je bégaye aujourd'hui, c'est l'horreur. Par exemple, en 1991, on avait eu un film de Gérard Jugnot, d'ailleurs, avec lui, Victoria Abril. C'était Une époque formidable, ça s'appelait. Il y avait Richard Boringer aussi dans le film. Par exemple, il y a eu en 2019, on en a parlé ici à l'antenne, Les Invisibles, de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy et Corinne Maziro. Voilà, c'est un thème quand même que le cinéma aime bien aborder. Quand il le fait, en principe, en tout cas les films français, je trouve qu'ils sont quand même assez bien faits. Ils sont très respectueux en même temps. Ils sont très, il y a pas de, et puis il y a pas de de misérabilisme. Il y a pas de, c'est toujours des personnages touchants, intéressants, et qui sont là parce que la vie les a bousculés. Hein, tout d'un coup, la vie les a trahis et voilà, ils ne sont pas nés dans la rue. Hein, c'est arrivé comme ça. Après, on perd son travail et ça, on n'en retrouve pas et ça, on descend très très vite en fait. Donc les films sont toujours très, très bien faits. Je dis les films français parce que des films étrangers, parlant de SDF, j'en ai pas vu, je n'en connais pas. Il y en a sûrement, hein. Mais les deux autres que j'ai cités là sont formidables. Hein. Une époque formidable, c'est le Kadir et les Invisibles. Donc je trouve que c'est bien fait. Alors en fait, le réalisateur a emmené Catherine Fraud dans des endroits qu'il connaît bien, lui, où les sans-abri se retrouvent, des lieux de rencontre, de distribution de repas, par exemple l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, dans le premier arrondissement de Paris, qui accueille ces gens depuis très longtemps. Tous les samedis matins, ils organisent un petit déjeuner. On le voit dans le film. C'est très important d'être juste. Et je trouve formidable, nous dit Catherine Fraud, sa manière de se fondre dans ce milieu, quand elle parle du réalisateur. Voilà. Et puis elle a construit son personnage vraiment. La Christine de Sous les étoiles de Paris. Et finalement, quand même, elle s'éloigne de celle du au bord du monde. Mais... bien travaillé son personnage. C'est ce que nous dit le réalisateur en parlant de Catherine Fraud. Donc c'est quand même... ils ont passé, pour le scénario, ils ont passé beaucoup de temps aussi avec des migrants dans les jungles là, du nord de la France. Voilà, ils voulaient intégrer cette thématique dans le scénario, justement, dans la mesure où il leur semblait impossible de parler de la grande exclusion en ce début de XXIe siècle sans évoquer la crise migratoire. Évidemment, ils ne pouvaient pas passer à côté. C'est clair. Alors, ils ont été frappés, surtout, nous dit le réalisateur, par une femme accompagnée de ses très jeunes enfants. Nous nous sommes demandé ce qui se passerait pour eux s'ils étaient brutalement séparés de leur mère. Le personnage de Sully, le petit garçon qui se retrouve tout seul avec Christine comme seul repère, est né de là. C'est pour ça que c'est... Oui. Alors, il a choisi, lui, le réalisateur, de tourner à Paris parce que, selon lui, la ville, de par son contraste très fort entre le faste et la pauvreté, constitue une métaphore pertinente du monde actuel. C'est pas, on l'a classé dans les comédies, mais c'est pas une véritable comédie. Il y a aussi quand même, c'est plus une comédie dramatique, je trouve, plutôt comédie dramatique. Et voilà, pour trouver le jeune acteur là qui joue Sully, qui est super, hein, il a vu une centaine d'enfants, le réalisateur. Voilà. La chef du casting les avait repérés dans la rue, voilà, dans des clubs de sport, dans des écoles de théâtre. Et l'heureux élu devait parler couramment une langue africaine. Et il se trouve que Mahamadou Yafa, le jeune acteur dont la famille est d'origine malienne, pratique régulièrement le bambara. Ah oui, c'est une langue africaine. Et il s'est vite imposé. Voilà, il a tout de suite su interpréter le fait que Sully ne comprenait pas le français. Il ne comprend pas les mots, a dit le jeune garçon réalisateur. Il comprend l'émotion. Voilà. C'est très, très chouette. En tout cas, si vous aimez Catherine Fraud, qui est quand même, qu'on connaît absolument, quand même, on l'a vu, même si on n'est pas très habitué à aller au cinéma. On l'a vu de toute façon dans un tas de films qui repassent à la télévision. On la connaît. Si vous l'aimez, il faut la voir dans ce rôle quand même. C'est-à-dire qu'elle sait tout faire, Catherine Fraud. On peut dire ça sans trop se tromper. Hein. Donc là, elle est comme d'habitude. Il n'y a pas grand-chose à rajouter.
Et on écoute la bande-annonce.
Sous les étoiles de Paris.
Six. Non, mais c'est quoi, ça?
T'avais une place en or ici.
Vous l'avez trouvé où?
Il est apparu.
Maman?
Maman!
On va chercher ta maman.
Je suis une pauvre clocharde.
Sous les étoiles de Paris de Klaus Drexel.
Un conte de la rue qui touche le cœur, ça c'est titré comme ça. Hein, c'est pas... Et c'est titré aussi « Jusqu'où iriez-vous pour l'amour d'un enfant ?» Parce qu'au fond, Christine va retrouver son humanité grâce à cet enfant auquel elle va s'attacher. C'est terrible ce type qui lui dit « vous aviez une bonne place ici ». Il parle de la place sous le pont, quoi, quand même. C'est terrible, c'est terrible de l'entendre dire ça. C'est un type qui nettoie, qui surveille, voilà, et qui va fermer d'ailleurs, qui va fermer l'entrée là où elle se mettait, en lui disant « ah, c'est dommage, vous aviez une bonne place ». C'est terrible, terrible. Et oui, mes chéris, c'est un film à voir quand même, vraiment. Oh, Catherine Froux, quand même. Ensuite, j'ai une comédie. Oui, une comédie. Cette fois, c'est une comédie. C'est français. Ça s'appelle Miss. Alors, Miss, c'est terrible parce que Miss, c'est un film qui devait sortir le 11 juillet 2020, qui a été repoussé. Repoussé, 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 c'est le cas de dire. Hein. Et qui, enfin, va trouver sa place le 28 octobre. On n'y croyait plus. C'est un film de Ruben Alves, qui est un acteur, réalisateur, scénariste franco-portugais. Il a 40 ans, il fait de jolies choses quand même. Il a déjà eu un prix et 6 nominations. Alors son film a une nomination au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2020, catégorie film de clôture. Et il a une nomination également dans la catégorie avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême 2020. Et puis, voilà. Ah oui, alors lui, pour le situer, ah oui, un film formidable qui est sorti en avril 2013, qui s'appelait La Cage Dorée, qui a eu d'ailleurs 2 prix et 6 nominations. C'est vraiment un super film. Faut trouver le DVD, là, quoi. C'est La Cage Dorée, c'est vraiment... C'est un couple de Portugais qui sont concierges dans un bel immeuble haussmannien, c'est-à-dire du boulevard Haussmann, où il y a les plus beaux immeubles de Paris en principe. Et ils sont formidables et ils deviennent indispensables. Et quand un jour ils décident de repartir au Portugal définitivement, eh bien les habitants vont tout faire pour pouvoir pour les garder, pour qu'ils ne partent pas. Ils ne veulent pas les laisser partir, en fait. Jusqu'où iront-ils on disait à l'époque, pour les retenir? Il faut voir ce film, là, La Cage Dorée, il faut le trouver. Hein. Ah oui, il vaut la peine. Ben, c'est de Ruben Alves également. Alors là, c'est quoi, Miss? Ben, c'est Alex, petit garçon gracieux de 9 ans, qui navigue joyeusement entre les genres. Il navigue joyeusement entre les genres, on s'arrête, et il a un rêve. Être un jour élu Miss France. Oui, vous avez bien entendu. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie, au gré des étapes d'un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleur, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout de lui-même. Alors évidemment, l'acteur qui joue le rôle est extraordinaire, c'est Alexandre Vetter, c'est vraiment... c'est quelqu'un. Hein. C'est curieux parce qu'il a été interviewé plusieurs fois, d'ailleurs, dans des émissions de cinéma. C'est son premier grand rôle, hein. C'est son premier grand rôle en long métrage au cinéma. C'est un mannequin en fait, androgyne. Il est trentenaire. Il a défilé par exemple pour Jean-Paul Gaultier et il a une allure absolument unique. C'est... Alors, il a eu quelques petits rôles à la télévision à partir de 2014. Il faut voir l'affiche, hein. Il y a son visage sur l'affiche. Ah oui, vraiment, c'est un... je crois qu'il y en a très peu, il y a très peu d'acteurs ou de mannequins comme lui quand même, hein. Alors dans le film, on a Pascal Arbillot aussi, oh là là, grande comédienne, Isabelle Nanty, oh là là, il n'y a pas grand-chose à dire, elles sont formidables, Thibaut de Montalembert, ah bah oui, dont je parlais tout à l'heure de lui pour 10% quand il part avec l'or qu'elle a mis. C'est Thibaut de Montalembert, excellent également. On a Steffi Selmar. Enfin, c'est un joli casting. Hein. C'est vraiment... Ah oui, oui, c'est très, très chouette. Il y a... qui y a encore? Ah ben oui, il y a Roland Giraud, il y a Rita Blanco, il y a Joachim de Almeida. Oui, oui. Chantal Lobby. Ah oui, il y a Chantal Lobby aussi dans le...
Steffi Selma qui est également dans 10%.
Tout à fait, tout à fait. On les retrouve tous là, quasiment les uns après les autres. Voilà. Donc, alors voilà, il va se présenter donc Miss France, ça se passe en Île-de-France d'ailleurs. Alors en fait, c'est Ruben Alves. Il a accompagné une personne de son entourage dans sa transition. Il a vécu ça, lui, et il a décidé d'en faire le sujet de son nouveau film. Voilà, c'est... Il voulait, nous dit-il, que le grand public ait accès à ce sujet et à ses enjeux. Mais je ne trouvais pas le bon biais ni la façon d'apporter quelque chose de différent par rapport à de formidables documentaires existants. Donc, du coup, elle lui a sa productrice a contacté Alexandre Vetter, qu'elle a rencontré lors du casting, et elle dit qu'elle a été frappée par la façon dont il passait avec simplicité et naturelle sur son compte Instagram. Je lui ai demandé s'il envisageait une transition. Ce n'était pas le cas, il se sent juste plus fort en femme. Donc après leur première rencontre, Alexandre Vetter a décidé de regarder le film La Cage Dorée, vous voyez, dont je parlais tout à l'heure. Il l'a regardé, ce film. Il a été emballé par cette comédie. Et du coup, il a dit OK. Vous voyez, moi aussi, en voyant La Cage Dorée, je me dis que ce film-là, c'est sûrement une réussite. Si c'est comme La Cage Dorée, comme quoi on peut regarder le film d'un cinéaste et après se dire mais oui, j'aime ce qu'il fait, donc j'irai voir le prochain film. Ben, c'est ce qui se passe là. Mais vraiment, Ruben Alves, là, le réalisateur, il a insisté sur le fait qu'il n'a pas réalisé un film sur Miss France, hein, sur les Miss France, c'est pas ça. Il a cherché à casser les codes et à insuffler de la modernité dans cet univers qu'il considérait avec second degré. Ah. Il a rencontré d'ailleurs Sylvie Tellier, qui est la directrice générale de Miss France, et il a fini par s'attacher aux candidates du concours. Il nous dit que certaines ne sont pas là pour devenir célèbres. Non, toutes ne sont pas brillantes, mais la plupart sont authentiques, sincères, investies et pas bêtes. Voilà ce qu'il nous dit. Je trouvais par ailleurs intéressant que l'on aborde une féminité plurielle à travers le regard d'un homme qui met les femmes sur un piédestal. Voilà, je pense que c'est vraiment une réussite ce film quand même. Alors, c'est en tombant par hasard sur une scène de 10%, c'est lui qui a regardé 10%, dans laquelle son personnage fume dans un lit après avoir couché avec son assistante, qu'il a choisi Thibaut de Montalembert, qui justement couche avec Laure Calamy, son assistante. On revient toujours à 10%. Aujourd'hui, mes chéris, franchement, ce n'est pas fait exprès. C'est que tout le monde se retrouve là, plus ou moins. Et que quand il y a des réussites, ça se retrouve hein, toujours, hein. Et c'est là qu'il l'a découvert. Alors, je découvrais là, nous dit le réalisateur, l'espace d'un instant, une forme de féminité qui me plaisait énormément. J'avais mal au là. Et j'ai eu la chance qu'il accepte immédiatement. Thibaut a plongé dans l'univers de son personnage pendant 2 mois. Il s'est créé une playlist Lola, il s'est entraîné à marcher avec ses talons hauts, il a lu tout ce qu'il pouvait sur l'ambivalence et le travestissement. Et voilà, on a de grands comédiens dans ce film, décidément. Et oui. Ben c'est, donc je disais que c'est le premier rôle hein, de long métrage hein, d'Alexandre Vetter, mais il s'en sort drôlement bien en tout cas. Ouais. On est charmé par ce film, Miss. Il était temps qu'il sorte quand même. Quel dommage qu'il ait été autant retardé.
Et on écoutait la bande-annonce.
Ah oui, merci.
Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés.
Mon rêve, c'est d'être Miss France.
Debout là-dedans.
Je vais faire Miss France.
C'est garçon.
Bah garçon. Voilà, c'est ça, oui.
J'ai besoin de ton aide.
T'aider à quoi?
Bah, devenir Miss France. Non, je suis très sérieux.
D'accord.
Avant le physique, il y a le mental.
Je me sens plus fort en femme.
3, 4.
Voilà.
Oh, t'as achevé.
On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà.
Ils vont te recaler à l'entrée.
Vous devez savoir vous tenir droite, respirer, si ça peut vous aider. Tu peux avoir une explication?
Il n'y a pas ma taille.
Il y a des paires jusqu'au 41.
Je fais du 42.
Montrez-nous comment vous buvez du vin. Plus bas.
Même pour quelques millimètres.
Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire? Quelques millimètres.
Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais.
Mais je pensais que tu serais un peu fière de moi.
Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel.
Tu lâches rien. Et tu vas en finale.
Bienvenue à la cérémonie Miss France.
J'aime les enfants, les handicapés. Enfin non, je n'aime pas les...
Pourquoi voulez-vous devenir Miss France?
Pour devenir quelqu'un.
Voilà Miss de Ruben Alves.
Au fait, cet Alexandre Vetter, là, quand il était gamin aussi, il est du Var, hein, c'est un mec du Var, comme dit le réalisateur. Et il se disait qu'un jour, il défilerait en femme pour Jean-Paul Gaultier. Et c'est ce qu'il a fait.
Voilà.
Et quand le réalisateur a su ça, il a dit, mais alors, il n'y a pas de souci, quoi. Il peut être Miss France. Ah, c'est joli, ça. C'est une jolie histoire, quand même. Hein. Voilà. J'ai dit 1h47, non? Peut-être pas. Ensuite, on va virer un peu vers le drame quand même, hein. On ne peut pas toujours rigoler. Alors c'est un drame français, ça s'appelle ADN. L'ADN, vous savez ce que c'est l'ADN? C'est ce qui prouve que son papa est vraiment son papa. Et que... c'est ça l'ADN? Non, ça c'est ce qu'on voit dans les policiers ou dans les films où il y a un problème et on dit « Ah ben je veux savoir si mon père est vraiment mon père » et on fait un test d'ADN. Eh oui. Avec un coton-tige que les policiers mettent dans la bouche comme ça, du gars qui est soupçonné, un truc comme ça, tac, tac, tac. On a vu ça combien de fois dans les films policiers? Ah là là, l'ADN, du coup on sait ce que c'est, l'ADN. Alors l'ADN, c'est un film de Mai Wen. On la retrouve, Mai Wen, elle revient, réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a 44 ans, et oui, elle continue à faire de beaux films. Elle a déjà eu quand même, sur 37 films, elle a eu 12 prix et 53 nominations. Bon, ce qu'elle fait doit plaire finalement. Hein, voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, ADN fait partie des 10 films ayant obtenu le label Cannes 2020 et à être présenté au Festival de cinéma américain de Deauville 2020. Voilà, il y en a eu 10. Mais je crois que j'en avais parlé de ça la semaine dernière aussi pour un autre film, justement. Là, c'est le label Les Fidèles. Tout à l'heure, c'était le premier film. Là, c'est une nomination. Cannes 2020, label Les Fidèles. C'est une jolie nomination, ça. C'est l'histoire de Neige. Neige est divorcée et mère de 3 enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien, qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore, pardon, et elle admire ce pilier de la famille qui l'a élevée et surtout protégée de la toxicité. Ah oui, carrément, la toxicité de ses parents. Eh oui, j'ai relu la phrase 2 fois parce que je me disais, aïe, toxicité des parents, ça fait un peu peur quand même. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses. Ben oui. Heureusement, Neige peut compter sur le soutien et l'humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors, elle va vouloir comprendre et connaître son ADN. Alors, c'est Mai Wen hein, qui joue le rôle de Neige. Elle est splendide, comme d'habitude, d'ailleurs. On a Fanny Ardant, la grande Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert. Ouh, c'est un joli casting, ça. Très, 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 très joli. Et ça dure 1h30. Ah oui. Donc, Damien a certainement quelque chose pour nous. Merci.
À mes enfants.
Papy avec ses deux filles.
À mes petits-enfants.
Papy. Papy.
Et à mes arrière-petits-enfants.
On est vraiment désolés.
Qui poursuivent le chemin tracé.
C'est ton grand-père qui faisait que on était une famille.
La sidération, ça sera dans 5 jours.
Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce.
C'est une blague? C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille.
Vous voulez un cercueil en chêne?
100 euros, il est en carton.
Oh non, non, c'est pas un déménagement.
C'est pour
oh
les
non,
brûler.
Non.
Ça m'aurait fait plaisir que tu nous appelles ces derniers jours. Allô, Neige, comment ça va? Tu vois, des petites phrases comme ça, des pères, quoi. C'était comment l'enterrement de ton grand-père?
Une émotion indescriptible.
Oh, tu te fous ma gueule.
Non. Je t'assure, ça donnait vraiment envie de mourir.
Ma mère, elle a 50% algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25. Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet?
Ah.
C'est normal qu'à l'âge que j'ai toujours peur de toi. J'ai envie d'avoir un esprit reposé.
Je veux pas que tu te résignes. Je veux pas que tu aies peur.
Mais c'est raté, j'ai peur de toi.
En un mot, sans rire, tu peux être fier de moi, Emir. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN.
Voilà la bande-annonce de ADN, le dernier film de Mai Wen.
Oui.
Et je trouve que Marina Wacht et Mai Wen, qui jouent donc deux sœurs dans le film,
oui,
ont vraiment quelque chose de semblable.
Oui, oui, tout à fait. Je ne l'ai pas nommée parce que j'ai nommé juste les rôles vraiment principaux. Mais oui, 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 elles se ressemblent absolument. Oui, oui, tout à fait. Ah ben alors voilà, alors pour les amoureux, là, il y a une phrase clé là. Si vous êtes amoureux, ou amoureuse, vous pouvez dire à l'autre, tu fais partie de mon ADN. Oh, c'est joli comme phrase, ça, pour pour une déclaration amoureuse. Oh, j'avais pas pensé à ça, moi. Et toi, Damien, t'avais pensé à une phrase comme ça, dire à quelqu'un, ah, je t'aime, tu fais partie de mon ADN.
Non,
Oh, c'est joli comme tout. Voilà, on a un tuyau, là. Mais chérie, si vous êtes amoureux et pas encore déclaré, bah voilà, vous avez une phrase clé. Je plaisante, évidemment. Alors ensuite, on va virer dans le fantastique. Fantastique, drame, voilà, c'est américain. Et là, ça déménage. Moi, j'ai quand même marqué que c'était quand même assez... Pour les adolescents ou les adultes qui sont restés jeunes dans leur tête, ça s'appelle The Craft, 2 points, les nouvelles sorcières. C'est de Zoe Lister-Jones, qui est une réalisatrice, scénariste, actrice, productrice américaine. Elle a 38 ans. C'est son deuxième long-métrage de fiction, Si je mange les airs, on est fichu. Donc, elle a travaillé beaucoup comme scénariste, en fait. Et c'est la première fois qu'elle réalise un long-métrage, qu'elle le scénarise et qu'elle le réalise. Alors, elle a Zoe Lister-Jones, pour les amateurs de séries encore que cela. Là, cette série Hollyoaks, c'était un soap opéra britannique qui est passé pendant quelques années. Ouais, je ne sais pas si on a eu quelque chose en France, d'ailleurs. Elle avait fait sa première apparition, cette réalisatrice, à 13 ans comme actrice dans cette série. Et non, ça devait pas. Non, on n'a pas dû le voir en France, je ne sais pas. Ça passait sur Channel 4. Mais c'est une histoire d'ados et de jeunes adultes dans la banlieue de Chester, hein, qui est une ville qui est au nord de l'Angleterre. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a commencé très tôt, quand même. Hein, le cinéma, pour elle, c'est vraiment quelque chose, une habitude. Mais comme scénariste, oui, elle a fait beaucoup de choses comme scénariste. C'est une très bonne scénariste. Et très connue là-bas, hein, en Angleterre. Hein. Elle est connue dans le milieu du cinéma et pour les gens qui aiment le cinéma, ils la connaissent. J'ai vu ça, qu'elle était assez... qu'elle était plutôt appréciée. Alors, c'est quoi ce Craft, Les Nouvelles Sorcières ? Ben, c'est un reboot du film The Craft, Dangereuse Alliance, c'est-à-dire une suite indépendante. Hein. Dangereuse Alliance, c'est sorti en 1996, ça a eu un succès phénoménal, d'ailleurs. Et voilà, c'est comme une suite, mais tout à fait indépendante de l'histoire, en fait. Hein. Donc, c'est l'histoire de l'introverti Anna, arrive dans un nouveau lycée. Elle se lie d'amitié avec trois autres camarades. Les jeunes femmes commencent à pratiquer la magie et invoquent les plus puissants esprits afin de transformer leurs rêves en réalité. Alors dans le premier, Dangereuse Alliance, pareil, quoi, c'était quatre étudiantes qui pratiquaient la magie, voilà, et qui invoquaient les puissants esprits pour transformer leurs rêves en réalité. Et en fait, il apparaissait petit à petit des rivalités dans le groupe. Donc là, je ne sais pas, on ne va pas trop le dire, puisque c'est une suite indépendante, mais c'est ça aussi, ces jeunes filles qui pratiquent la magie, mais à un degré quand même assez élevé et assez dangereux. C'est, voilà, je pense... C'est du bon cinéma quand même, hein, dans le domaine. Hein. Le premier a très bien marché. Je pense qu'il va le marcher aussi, celui-là, d'ailleurs. Ça dure 1h35. Il y avait une bande-annonce, je ne sais pas, je crois, Damien, je ne sais pas si tu as ça, dans The Craft, Les Nouvelles Sorcières.
On l'écoute.
Nickel. Ok, allons-y. C'est vrai que tout est allé très vite. Mais c'est bien, non ? De former une grande famille.
Allez, viens, je vais te présenter les garçons. Ils ont hâte de te rencontrer.
Tu es prête pour l'école ? Tu pourras te faire de nouveaux amis.
Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. L'oiseau
libre. C'est hyper dégueu. Oh, non.
C'est bon, ça suffit, calmez-vous.
Vous avez vu ça ? Il y en a partout.
Ça nous arrive à toutes.
Il nous a déjà toutes fait pleurer, t'inquiète.
Tu devrais venir avec nous après les cours. C'est quoi tout ça ? C'est une cérémonie, en ton honneur. Pourquoi vous voudriez m'honorer ? Parce que t'es la quatrième.
T'arrives pile pour ton premier cycle.
C'est un peu de la folie, tout ça. La base pour avoir des pouvoirs, c'est de croire qu'on en a. C'est pour ça que nos assemblées ont toujours été importantes.
Si on est capable de faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
Faut qu'on jette un sort à Timmy. Mais on va pas lui faire de mal, pas vrai ?
Elle a raison. La règle numéro 1 en sorcellerie, si une sorcière devient un danger pour elle-même ou les autres... Ses pouvoirs seront scellés.
Je commence à me faire du souci. Désolée, je traînais avec mes copines.
Ah ! On est allé trop loin.
Tout ça, c'était qu'un jeu pour toi ?
Chérie.
Non. Je me sens différente.
Faites gaffe avec tous les barges qu'il y a dans la nature.
Les barges, c'est nous, monsieur.
Oui. De Craft, Les Nouvelles Sorcières. Donc,
il y a un acteur d'ailleurs dedans là, qu'on connaît, David
Duchovny.
David Duchovny, voilà. Qui
connu était... grâce à X-Files.
Voilà, X-Files, voilà, avec Gillian Anderson. Et, oui,
et plein d'autres films.
Cette série, oh, oui, il a fait beaucoup de. Et dans le rôle d'Anna, on a Kylie Spaney, qui est une habituée aussi un peu de ce genre de rôle. On a Gideon Adlon, qui fait Frankie. Dans les quatre filles, là, on a Lovie Simon qui fait Tabby et on a Zoé Luna qui fait Lourdes. C'est les quatre sorcières. Alors, bon, bah, si vous aimez tout ce qui parle de sorcellerie, de fantastique, c'est bien fait. Hein, y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment bien fait. Je pense qu'il y aura le même succès. Je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, c'est sûr, ça marche fort.
C'est un parfait film fantastique pour adolescents.
Tout à fait. C'est pour ça que j'avais marqué, c'est ce que j'ai eu au début, pour ados et pour adultes qui ont gardé leur âme d'adolescent, éventuellement. Éventuellement, pourquoi pas.
Amateur du genre.
Voilà, amateur du genre, tout à fait. 1h35, je ne sais pas si j'avais dit. Oui, oui, ben c'est pour ça que je l'avais mis de côté quand même, parce que pour ceux qui aiment, ils sont bien, il est bien fait, quoi, voilà. Et puis, j'avais aussi, un drame espagnol-français, une vie secrète. Alors, ils sont trois co-réalisateurs. Il y a Joan Garano, José Marie Guenaga, Aitor Arregi. Alors, ce sont des réalisateurs, scénaristes, producteurs espagnols. Ils ont tous à peu près dans les 45, 44, 46 ans. Ils ont eu des prix déjà, des nominations également. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Sauf que d'habitude, ils travaillent ensemble depuis une vingtaine d'années quand même. Hein. Sauf que d'habitude, ils tournent leurs films à deux, normalement, en variant les combinaisons. Cette fois, ils ont tourné tous les trois. Voilà. Mais ils ont été un peu obligés. Hein. Il y avait un problème de logistique. Ils ont été obligés de s'y mettre à trois pour la réalisation. Alors, ils ont fondé, d'ailleurs, ces trois réalisateurs ont fondé une société de production qui s'appelle Moriarty. Ils l'ont montée quand même il y a un peu plus de 15 ans. C'est curieux parce que Moriarty, c'est le nom de l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Décidément, on retrouve toujours le professeur Moriarty qui est une espèce de monstre et qui est l'ennemi de Sherlock Holmes. Ben voilà comment s'appelle leur société, pourquoi pas. Alors, le film, alors il y a un avertissement quand même, hein, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, il faut le noter absolument. Hein, parce que, bon, voilà. Hein, on se connaît soi-même, on sait ce qu'on peut supporter ou pas. Donc, mes chéris, c'est à vous de voir après. Alors, ça se passe en Espagne en 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l'arrivée des troupes franquistes. Avec l'aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte des représailles et l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre condamnent le couple à la captivité. Ah oui, c'est terrible, hein, c'est quand même quelque chose. Le général Franco, en fait, à cette époque-là, en 1936, il gagne du terrain et il menace la vie des partisans républicains. Pour rester libres, certains ont dû se cacher pendant des années. Ça, c'est vraiment dans la réalité, hein. Et ce film raconte d'ailleurs leur histoire. C'est tout à fait ça. Hein. Alors, en fait, je vais donner tout de suite le nom des acteurs. Ils sont fabuleux. Hein, avec des rôles très, très difficiles. Antonio de la Torre, c'est Higinio. Belén Cuesta, c'est Rosa. On a Vicente Vergara. José Manuel Poga. C'est un film terrible, hein, ça dure 2h27. C'est terrible parce qu'on vit leur enfermement de l'intérieur surtout. En fait, le film s'est inspiré, enfin, il a été inspiré par le film documentaire qui s'appelait 30 ans d'obscurité. C'était de Manuel H. Martin. C'était projeté en 2012 au Festival de San Sebastian. C'est. Qui a été encensé, hein, meilleur réalisateur, meilleur scénariste, le prix Fipretti de la critique internationale, etc. C'était l'histoire de plusieurs taupes entre guillemets, pendant la guerre civile espagnole. Ces gens qui vont vivre comme des taupes carrément, quoi. C'est-à-dire pendant des années, hein, c'est terrifiant. Et c'est pas seulement l'histoire d'un reclus, ce film. C'est montrer, ça raconte pas uniquement ça, c'est montrer le confinement de l'intérieur, de manière à pouvoir jouer avec le hors-champ, le son, le visible et l'invisible. Confinement, c'est un mot qu'on prononce en ce moment ici, partout dans le monde d'ailleurs, confinement. Ben là aussi, il y a un confinement, sauf que c'est parce que c'est pour échapper à la mort, c'est pour échapper à la guerre civile espagnole. Alors, la peur reste le thème le plus important du film, quand même. Higinio se cache. Pourquoi ? Ben parce qu'il a peur. La peur est universelle, nous dit le réalisateur, et sans fin. Et c'est précisément ce qui nous intéressait. Alors, c'est sûr que là, il faut être costaud quand même. Hein. C'est pour ça que l'avertissement me semble très utile là, pour les scènes, les propos, les images. C'est 2h27 quand même de trouille aussi un peu. On est le spectateur et on a peur avec eux, en fait. Donc, vous voyez, vous, mes chéris, vous vous connaissez, vous savez ce que vous aimez, ce que vous supportez ou pas. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est réussi, quoi. Ça, c'est sûr. Par contre. Ah oui. Et il dure, oui, j'ai dit, hein, 2h27. Et puis, j'avais un film interdit aux moins de 16 ans. C'est un drame, c'est fantastique aussi. C'est français. C'est de Christophe Carabache, qui est un réalisateur, scénariste, acteur de 41 ans. Il est franco-libanais, en fait. C'est un cinéaste indépendant. Ça, c'est important. Effectivement, ça s'appelle Vortex. C'est l'histoire d'un tueur désespéré qui quitte la ville et qui croise sur son chemin une mystérieuse sorcière liée intimement à la nature. Débute ainsi un étrange rapport organique entre la vie et la mort. Alors, le film en fait mélange le drame et le fantastique. Hein. Les personnages du film, les deux personnages, l'homme et la femme, se rejoignent dans la mesure où ils ont tous les deux un pouvoir sur la vie. L'un la prend et l'autre la redonne. On a Julien Romano, Claudia Fortunato, Joël Hellary et Romuald Bourdon dans les rôles principaux. Ce film a été sélectionné dans 13 festivals. Alors en Uruguay, en Thaïlande, en Roumanie, aux États-Unis, au Venezuela, en Pologne, aux Indes, au Pérou, au Canada, en Russie et en Angleterre. Il a été sélectionné dans tous ces pays-là. C'est quand même assez rare. Ça dure 1h23. Je voulais quand même en parler. Vortex. Attention, les moins de 16 ans quand même. Hein. Et puis, alors là, bon, bah pour finir, j'avais quand même un documentaire, enfin deux d'ailleurs, un documentaire français contre vents et marées de Jean-Pierre Jacquemin, qui est un réalisateur scénariste français. Alors, ça dure 1h01, c'est « Quel héritage garde-t-on de la résistance ?» Voilà, nous suivons le parcours de 4 résistants de la Seconde Guerre mondiale. Les plus jeunes d'entre eux en sont maintenant les derniers représentants. Ces jeunes combattants d'alors sillonnent maintenant la France afin de rencontrer les jeunes générations qui ont aujourd'hui l'âge qu'eux-mêmes avaient lors de leur engagement. S'ils parlent de leur expérience, de leur combat, de leur engagement, de leur conviction, ils en parlent. Loin de vouloir passer pour des héros, ils veulent simplement parler de l'actualité de ces combats, de l'importance de la révolte, de l'indignation et de la lutte. Alors, il y a les évasions spectaculaires, les filatures, l'espionnage, la clandestinité, le maquis, les embuscades, les sabotages, etc. La jeunesse permet tout, mais ce qu'il en reste, ce sont des convictions en héritage, ces convictions qu'ils ont gardées toute leur vie et qu'ils nous livrent sans réserve contre la montée des extrémistes et pour sauvegarder les avancées du Conseil national de la résistance, aujourd'hui en danger. Eh oui, sécurité sociale, assurance, chômage, liberté de la presse, les anciens montrent le chemin. J'ai trouvé que c'était un documentaire extraordinaire. Si vous pouvez le choper, ou de toute façon, il va sortir en DVD dans très peu de temps, Contre vents et marées. Ouais. Damien a sûrement d'ailleurs une bande-annonce. Oui, merci. Merci.
J'ai eu plus qu'une pensée, c'était de m'évader. C'est ce que j'ai fait au mois de février 1943, une nuit par brouillard. On a tordu les barreaux. On ne se déclare pas résistant comme ça, il y a un parcours.
La guerre, c'est l'affaire des militaires. Les civils, ils ne peuvent pas se mêler de ça.
La résistance a été faite plus par le contact que par notre acte, par le contact des gens.
Un copain qu'on arrive à contacter, il m'a dit, je pourrais peut-être voler un coup de main. Ben, dès qu'il dit ça, ben, c'est fini, il est pris, il rentre dans le jeu. Enfin, si on peut ça dans le jeu. Mais enfin, il rentre dans l'action.
Vous
Voilà donc contre vents et marées, se battre pour un idéal quand on n'a que 20 ans.
C'est formidable ce qu'ils font comme ça, d'aller un peu partout et de discuter avec les jeunes, justement, de leur parler de ça. C'est très beau. Et puis il y a je veux finir avec deux versions, deux reprises, dont une version restaurée de Pluie Noire. Du japonais Shohei Imamura, qui est décédé en 2006 d'ailleurs, grand, grand, grand réalisateur japonais, qui a eu, son film a eu 7 nominations des prix au Festival de Cannes 1989, parce qu'il est sorti le 30 octobre 1989. C'est un magnifique réquisitoire, j'en bégaye encore, contre la guerre. C'est vraiment... la reprise aurait dû se faire le 29 juillet 2020, mais c'est repoussé, justement, en octobre. Ça se passe... C'est l'histoire d'Hiroshima, en fait. Hein, 6 août 1945, voilà. La vie suit son cours comme tous les jours. Un terrible éclair déchire le ciel, suivi d'un souffle terrifiant, et l'enfer se déchaîne. Parmi les ruines, des corps mutilés et fantomatiques se déplacent. Asuko, c'est une dame, une femme, une japonaise, rentrait sur son bateau vers la maison de son oncle. Une pluie noire s'est abattue sur les passagers. Ils ne savaient rien. Quelques années plus tard, les irradiés sont devenus des parias dans le Japon d'après-guerre. Pluie noire, 1h58. C'était un film magnifique, extraordinaire, quoi. Le monde n'a toujours rien compris. Pour ne jamais oublier. Ça, c'était titré comme ça. On avait Miki Morihei, Yoshiko Tanaka dans les rôles principaux. Ils sont décédés d'ailleurs, ces acteurs. Pluie noire. Et puis il y avait aussi comme reprise À bout de souffle. Alors là, évidemment, tout le monde a entendu au moins ce titre une fois quand même. À bout de souffle de Jean-Luc Godard, qui est sorti en mars 1960. C'est un drame, c'est de la romance, c'est un policier également. Il y a eu un prix et 6 nominations. Ça dure... Au fait, j'ai pas dû Pluie noire. Si, 1h58. Là, j'ai dit, je ne l'ai pas dit encore, c'est 1h30. Donc, ça sort là, c'est prévu le 28. Et c'est une... Alors, il y avait Seberg, et Jean-Paul Belmondo dans les rôles principaux. Et ça se passait à Marseille au départ, un mardi matin. Michel Poicard, c'est Jean-Paul Belmondo, vole une voiture de l'US Army et prend la route nationale en direction de Paris. Énervé par une deux chevaux qui n'ose pas dépasser un camion, Michel double en plein virage et se fait prendre en chasse par un motard. Panique ! Il abat le policier d'un coup de revolver et s'enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, c'est Jean Seberg justement, avec laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste et pour pouvoir financer ses études à la Sorbonne, elle vend le New Herald Tribune sur les Champs-Élysées. Peut-être que tout le monde ne connaît pas exactement l'histoire d'À bout de souffle, depuis le début en fait. Quand on sait qu'au départ, il a simplement volé une voiture et puis que finalement après, c'est la panique et qu'il tue un policier. Et ça c'est la fin. Quoi. C'est, pour lui, c'est terrible. Quoi. Surtout qu'à l'époque... il pouvait être décapité sans problème parce qu'il avait tué un policier, quoi. S'il passait en cour d'assises. Donc, À bout de souffle. Évidemment, un film magnifique. On est content de voir ce Jean-Paul Belmondo dans un rôle extraordinaire pour lui, quoi. Tout ce qu'on a connu de lui après, qui ne ressemble pas du tout à ce rôle là, de jeune homme... pourchassé et qui va tuer par peur, par panique. Formidable, voilà. Ces deux reprises. Espérons que les cinémas proximité vont les diffuser quand même. Sinon, évidemment, vous avez les DVD sans problème d'À bout de souffle. Il y a longtemps qu'il est sorti et Pluie noire également. Pas très cher d'ailleurs, hein, des tarifs tout à fait raisonnables. Voilà.
Très bien. Ben merci beaucoup, Anna.
Oh, ben bah oui, bah, excusez-moi, j'ai bégayé plusieurs fois, mais ça, c'est l'émotion. Vous savez, on ne peut pas parler de cinéma sans être ému, en fait, de temps en temps. C'est ça. C'est le cinéma, ça fait cet effet-là, quand même. Hein. C'est pas toujours facile de passer outre ce qu'on ressent intimement, quoi. Et quelquefois, ça fait bégayer. Voilà. Et Damien va encore se moquer. Non. Hein
non, c'est non. Pas mon genre.
Non, il se moque pas. C'est pas son genre. Voilà. Bon, ben, au revoir, Damien. Merci. Hein. Merci pour les bandes annonces, pour ton soutien psychologique. Voilà, merci mes chéris en tout cas de nous avoir reçus chez vous. Et puis n'oubliez pas hein, que le cinéma, les cinémas sont encore ouverts. Ils font très attention, ils respectent absolument votre la qualité, enfin votre santé. Hein, voilà, ils font tout hein, pour que ça se passe très bien pour les gestes barrières, la désinfection, enfin tout quoi. Donc n'hésitez pas à aller au cinéma pourvu qu'ils nous les ferment pas tout de suite. Donc, pour le moment, on peut encore aller se détendre, rêver, s'évader dans les salles obscures. Et puis, ça fait... on a beaucoup de pluie, hein, donc en attendant, ça fait du bien d'être dans une salle et de regarder autre chose. En tout cas, ne, soyez prudents, faites bien attention à vous, prenez soin de vous, de votre entourage, n'oubliez pas le masque dans la poche, dans le sac. En tout cas, moi, je le mets au poignet, dites donc.
Et pas dans la rue ou dans la nature, comme certains qui, une fois s'en sont servis, le jettent avec grand plaisir.
Ah non, il ne faut pas. Les... Ah non, il ne faut pas les jeter dans la rue, ni même en campagne. Hein. Non, il ne faut pas les jeter. Il faut les jeter, oui, mais pas dans la rue, pas n'importe non, comment.
Dans des poubelles, comme dans le reste des déchets.
Voilà, comme le reste des déchets, absolument. Dans les poubelles, d'ailleurs, on met les journaux, le plastique, etc. C'est ces poubelles-là. Oui, pour les masques. Oui, merci de le rappeler, Damien, effectivement. Oui, tout à fait. En tout cas, nous, on pense à vous. On espère que tout va aller pour le mieux pour vous, nos chers auditeurs. Et puis, n'oubliez pas que je vous aime quand même. Hein. Bisous.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
Silence.
Aux yeux, tu sais.